affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Nous sommes un certain nombre à nous désoler parfois du rythme trop peu soutenu à nos yeux auquel se réalise la transition énergétique. Notre impatience est, il est vrai, stimulée aussi par les espoirs que suscite ce projet, par les attentes qu'il nourrit. En caricaturant à peine, il nous laisse en effet entrevoir un monde merveilleux affranchi des pollutions, des pénuries et des tensions militaires qui en résultent. Une sorte de nouvel Éden écologique en somme. Notre émission de ce jour va tendre à remettre, non pas à remettre en cause bien sûr l'objectif de la transition énergétique, mais va contribuer à nous faire sortir de cette vision angélique. Elle va en effet nous conduire à considérer que, comme toute transition d'ampleur, celle-ci se révèle beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Elle nous montrera ainsi qu'elle est porteuse, certes, d'espoir et d'opportunités, mais aussi de risques et même de dangers de toute nature, économiques, géopolitiques et même, aux surprises, de risques écologiques. Autant de réalités qui obligent à prendre donc des décisions, à faire des choix, à élaborer une stratégie. Et c'est précisément pour éclairer ces choix difficiles que devront prendre nécessairement les pouvoirs publics que l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont récemment constitué un groupe de travail et publié un rapport commun consacré précisément à l'un des aspects les plus importants de cette transition, la stratégie d'utilisation des ressources du sous-sol pour la transition énergétique française, un rapport qui était remis, si je ne me trompe pas, en mai dernier, au gouvernement. Or, nous avons la chance de recevoir dans notre studio les maîtres d'œuvre de ce groupe de travail et de ce rapport, messieurs Guilain de Marcilly et monsieur Bernard Tardieu, qui ont donc coordonné ce groupe de travail. Monsieur de Marcilly, vous êtes professeur émérite de géologie ou d'hydrologie appliquée et membre de l'Académie des sciences. Quant à vous, monsieur Tardieu, vous êtes président honoraire de la société Coyne et Bélier et membre de l'Académie des technologies. La première question que je voulais vous poser, messieurs, c'était de nous éclairer sur cette déconvenue qui nous saute aux yeux lorsqu'on lit votre rapport. Dans l'imaginaire collectif, la transition énergétique était, semble-t-il, censé déboucher sur un monde où tout est durable et renouvelable. On s'imagine ainsi, et de fait ça frappe les imaginations, que l'énergie solaire est infinie puisqu'elle provient du soleil, infinie ou presque, ainsi que l'énergie éolienne, puisqu'elle provient du vent et qu'il n'y a aucune raison que le vent s'arrête de souffler. Or, on découvre que si, certes, l'énergie solaire est infinie ou presque, et le vent n'est pas prêt de s'arrêter de souffler, néanmoins, les technologies qu'ils mettent en œuvre vont impliquer d'éventuelles nouvelles pénuries. Comment expliquez-vous, pouvez-nous expliquer cela ?
Tout le monde a compris que, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, on allait progressivement arrêter d'extraire du charbon et de le brûler, puis arrêter d'extraire du pétrole et de le brûler, puis arrêter d'extraire du gaz et de le brûler. Donc on a l'impression qu'on va laisser tranquille la planète. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que pour toutes les technologies dont nous allons avoir besoin, aussi bien pour les moteurs électriques que pour faire de l'hydrogène à partir des énergies avec la catalyse, que pour beaucoup de ces technologies modernes, il faut utiliser des métaux que nous n'avons pratiquement pas utilisés jusqu'à présent, qui sont dans le sous-sol et qui conduisent à des exploitations minières dont le montant économique est du même ordre de grandeur que ce qu'a été le pétrole et le charbon. Et donc, c'est très important de comprendre que les enjeux sont très importants, que c'est tout à fait nouveau, que les industriels miniers, les industriels qui vont les utiliser, découvrent les problèmes en même temps que les scientifiques. Et donc, notre planète sera encore sollicitée, et ça veut dire qu'elle sera sollicitée, bien sûr, dans ses ressources, mais aussi dans les risques géopolitiques que vous disiez tout à l'heure, puisque de même qu'on sait qu'il y a eu des guerres pour le charbon et des guerres pour le pétrole, il ne faudrait pas que par mauvaise gestion, il y ait des guerres pour le lithium ou des guerres pour le cobalt. Donc on est sur des sujets très très importants.
Je voudrais, si vous permettez, ajouter quelques exemples. Quels sont les matériaux ou les métaux dont nous parlons et qui seront nécessaires? Je donnerai un exemple. Tu viens de parler, Bernard, du lithium. Le lithium est un métal relativement rare, pas très rare, relativement rare, qui servira beaucoup à construire des batteries lithium-ion. Hein, on connaît déjà dans les téléphones, des choses comme ça. Mais toutes ces formes d'énergie nouvelle demandent d'une façon ou d'une autre une forme de stockage de l'énergie. Et l'une des façons de le faire, c'est les batteries lithium-ion. Il faut donc trouver du lithium. Alors la couverture de notre document, là, le rapport, ça présente des bassins d'extraction de saumure sur le plateau de l'Altiplano en Amérique du Sud. Les saumures de l'Altiplano sont très riches en lithium, donc il faudrait peut-être exploiter ce lithium-là. Il y a d'autres exemples. Les éoliennes. Les éoliennes, en particulier celles qui pourraient être installées en mer, ont besoin d'avoir des aimants permanents pour, dans leurs alternateurs, fabriquer de l'électricité. Des aimants permanents, ça marche. Si on rajoute dans la structure de l'aimant du dysprosium. Alors le dysprosium, c'est un métal rare qui existe de façon très très modeste sur la planète et qui est actuellement nécessaire si on veut faire ces types d'éoliennes. Il y a des alternatives, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir avec des éoliennes qui n'utilisent pas de dysprosium, mais c'est économiquement beaucoup plus cher. Donc le besoin de ce métal est lié à la technologie que l'on utilisera. Nous allons revenir là-dessus. Le choix de la technologie aura une importance énorme sur la nature des métaux dont on aura besoin. Je donne un dernier exemple, le cobalt. Le cobalt est un métal qui n'est pas très rare, mais enfin qu'il faut exploiter et qu'il faut extraire du sol. Et il est nécessaire à la catalyse des réactions qui permettent de faire, par exemple, du biogaz avec de la matière organique et des résidus et des déchets urbains ou agricoles. Et ce cobalt, il faut aller le chercher quelque part, il n'y en a pas partout. Donc on voit que chacune des technologies que nous utilisons pour la transition énergétique fera appel, je vous ai cité trois exemples, mais il y en a 36, nous avons relevé une vingtaine de métaux qui seront nécessaires pour pouvoir faire tourner les équipements. Hein. Ce n'est pas l'énergie qui demande la transformation, c'est les équipements nécessaires pour capter l'énergie qui auront besoin de ces matériaux.
Alors précisément, ce qui est fascinant là, quand on se plonge dans votre ouvrage, c'est qu'au-delà de ces métaux rares, on voit que l'ensemble de ces... Enfin, on peut même, pour prendre un exemple très concret, des choses extrêmement banales, comme même du béton armé, risque de manquer à certains endroits car il ne se trouve pas précisément là où on va l'utiliser. C'est là où on touche du doigt la complexité des choses, non?
Oui, c'est inattendu. En fait, si on calcule le nombre de tonnes ou de mètres cubes de béton qu'il faut pour faire une centrale à gaz, une centrale à charbon, une centrale nucléaire et une centrale éolienne, on s'aperçoit que l'éolienne, surtout si elle est en mer, parce qu'il faut mettre du béton dans le sol, consomme beaucoup plus de béton par mégawatt installé. On a comparé par exemple avec les centrales nucléaires françaises, soit les anciennes, soit les nouvelles, et on a plusieurs dizaines de fois plus de béton. Alors, le béton, c'est pas le ciment qui manque si on le transporte. En revanche, les agrégats et le sable. Alors c'est l'air idiot, mais vous savez que si on commence à racler le sable de la mer, d'abord il y a des endroits où on a des matériaux fins qui sont inadaptés, et puis le sable, si on commence à le gratter, il n'est plus sur les plages, etc. La mer est très sensible, on a des dépôts, etc. Donc c'est l'air bête, mais pour les récentes éoliennes en Manche, on a parlé d'importer des agrégats granitiques de Scandinavie. C'est quand même un tout petit peu ridicule, mais bon.
Oui, c'est-à-dire que quand on mesure, par exemple, l'impact carbone, finalement, de toutes ces technologies, on se rend compte que dans le calcul, il faut pas simplement regarder le produit fini une fois qu'il est en place, mais aussi le coût et l'impact de sa création, de sa fabrication, tout simplement.
Vous pouvez dire la même chose pour l'acier, vous pouvez dire la même chose pour le cuivre. Si le fait de faire beaucoup d'éolien dans le nord de l'Allemagne, ce qui est l'idée des Allemands, mais beaucoup, beaucoup plus, hein, et que toute l'électricité, il faut la ramener dans le sud de l'Allemagne, il faut beaucoup de lignes, d'ailleurs, dont personne ne veut, enfin bon, et beaucoup de cuivre, et beaucoup d'acier. Donc tous ces sujets sont, même pour les matériaux traditionnels, on peut avoir des tensions. Ce qui est intéressant, c'est de noter que, comme on est en transition, les les industriels sont en train de chercher les bonnes solutions. Donc on est dans un monde extrêmement risqué et flexible. Donc si on voit qu'on a une tension, par exemple, sur les agrégats, on peut très bien imaginer de fonder les éoliennes sur des jacks en acier fondés dans le rocher. C'est pas impossible, mais il faut s'adapter. Donc on est dans un monde où l'industrie et donc la politique doivent être en position d'adaptation permanente sur des sujets lourds. Et c'est ça, c'est pour ça que quand on a présenté ce projet, donc hier on était présenté au conseiller d'Emmanuel Macron, sont des sujets qui, pour l'industrie française, sont importants et pour lesquels il n'y a pas de rentabilité tout de suite. Il faut que donc les politiques orientent pour aider les industriels à trouver des solutions où, à la fin, ils aient des comptes positifs, sinon ça n'a pas de sens.
C'est-à-dire qu'il faut un pilotage à la fois à moyen et long terme, mais avec un pilotage également à vue, c'est ça ?
Il faut, quand on est industriel, on doit avoir des résultats de fin d'année. Hein. Sinon, on s'effondre en bourse.
Si vous permettez, ce que j'aimerais bien préciser, c'est que notre rapport n'est d'aucune façon en train de dire la transition énergétique, on ne peut pas la faire parce qu'on manque de matériaux. Ce n'est pas ça du tout. La transition énergétique, on est tous favorables à la faire. Simplement, il ne faut pas se trouver manquer de matériaux à un certain moment donné, que l'industrie ne puisse pas produire parce qu'on a choisi des filières qui demandent des matériaux qui sont rares ou difficiles à trouver. Hein. Donc l'objectif, c'est de bien faire attirer l'attention sur le fait qu'il y aura des métaux qu'on n'exploite pas du tout aujourd'hui, dont on aura besoin en quantité, donc besoin d'ouverture de mines, de besoin d'exploitation, et besoin, je dirais, d'une vision un peu internationale de la disponibilité des matériaux, parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde le sait, la Chine, par ne citer qu'elle, a un peu décidé de prendre le monopole de la production de ces métaux rares. Hein. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour que seuls les Chinois puissent exploiter dans leur pays les mines correspondantes et les vendre au niveau de tous les acheteurs potentiels de la terre. Donc il y a des problèmes commerciaux, des problèmes internationaux de gouvernance et d'indépendance qui se posent et sur lesquels il faut réfléchir avant que les problèmes ne se posent.
Oui, avant d'être pieds et poings liés, vous voulez dire.
Pardon ?
Avant d'être pieds et poings liés à un fournisseur unique.
Voilà, voilà.
Oui, alors, il y a un enjeu écologique très fort, c'est que l'exploitation de ces métaux, souvent, engage des conséquences environnementales très lourdes.
Et on parle des terres rares, c'est ça ?
Toutes.
Ah, toutes.
Par exemple, pour l'instant, c'est en RDC, au Congo, qu'une bonne partie du cobalt est exploitée. C'est eux qui ont le maximum. Enfin, il y a plein de trucs en RDC, tout le monde le sait. Il se trouve que l'exploitation telle qu'elle est faite est très dommageable pour les populations autour et pour l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on a du cobalt à un prix correct en acceptant qu'un autre pollue chez lui, alors que nous, on n'accepterait pas qu'on pollue chez nous. C'est un peu pareil pour le lithium. On a parlé des grands salars, le salar d'Uyuni que je connais, c'est des merveilles absolues du point de vue. On n'a pas envie de les abîmer. Il y a d'autres endroits pour le lithium, c'est ce qu'on appelle des spodumènes, c'est, on les trouve en Australie, mais la mine a déjà été rachetée par des Chinois.
Car les Chinois, non seulement produisent chez eux dans des conditions avec des normes écologiques, environnementales et sociales assez déplorables, si j'ai bien compris, mais de surcroît, ils ont une volonté, une stratégie de monopolistique avérée avec des rachats extérieurs, c'est ça ?
Oui, je ne vais pas vous faire découvrir que la Chine se voit bien maître du monde. Hein. Ce n'est pas un scoop. Hein. Mais donc, le fait, il faut être très prudent sur les conséquences environnementales de ces exploitations et pas penser qu'en l'interdisant chez soi, on est vertueux. Parce qu'en déplaçant la pollution chez les autres, chez les plus pauvres, on fait quelque chose, ce qu'on dit, qui est moralement inacceptable. Donc il faut mieux avoir un langage vis-à-vis de nos concitoyens, etc., en disant « apprenons à exploiter ces matériaux d'une façon correcte, et dans presque tous les cas on sait le faire, mais ça coûte un peu plus cher, ou même beaucoup plus cher ». Et ayons cette vision que ce n'est pas en sacralisant notre sous-sol et en traitant mal les autres, qu'on va vers plus de vertu. C'est vraiment un sujet qui nous importe vraiment dans les académies.
Oui, j'ajouterais que dans l'introduction de notre rapport, ce que tu viens de développer, Bernard, est indiqué de façon claire, ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'ils viennent faire chez vous. Donc ça, c'est très important.
Oui, c'est la fameuse règle d'or que vous développez.
Mais voilà, et je pense que c'est immoral, hein, de dire on a besoin de lithium, on va aller le chercher pas au Congo, mais du cobalt, par exemple, on va aller chercher au Congo, et on refuse d'ouvrir une mine de cobalt ici en France, s'il y en avait, il y en a d'ailleurs, parce que ça va polluer. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais beaucoup plus jeune, dans les années 50, on a ouvert, à côté de l'endroit où j'habitais, qui était la ville des Baux, dans les Bouches-du-Rhône, une exploitation de bauxite. La bauxite, c'est un minéral qui contient de l'aluminium, enfin qui permet de fabriquer de l'aluminium, et ça a été un tollé. On va défigurer
les Alpilles,
ça s'est fait quand même, et ça s'est fait de façon correcte, en ce sens que les Pechiney qui exploitaient a fait ça proprement, il n'y a pas eu de dégâts environnementaux, et la mine a été fermée une dizaine d'années après, et il ne reste pas de traces visibles de pollution due à cette mine. Donc si on travaille bien, et si on cherche les techniques les plus développées, les plus élaborées pour exploiter les mines, on peut exploiter correctement, même en France. Le meilleur exemple, c'est la Finlande. La Finlande qui est un territoire extrêmement riche en potentialité métallique, eh bien, ils développent des mines absolument propres dans lesquelles il n'y a pas de conséquences environnementales graves. Donc ça, on le dit dès le départ dans le rapport.
Alors si vous insistez sur ce point, la nécessité de prendre notre part dans l'extraction et sur la possibilité d'extraire ces métaux de façon propre et écologiquement acceptable, j'imagine que ce n'est pas comme une idée lancée comme cela, c'est parce que ces métaux sont bien présents sur notre territoire.
Absolument. Alors là, effectivement, c'est une chose que nous avons appris, Bernard et moi, en écoutant nos confrères et collègues au groupe de travail, des pays d'Europe, la France serait, je dis serait parce que c'est un conditionnel, celui des pays qui possède le plus de potentialité en matière de ressources en métaux rares à l'intérieur de son sous-sol. Ils seraient où ces métaux rares? Ces métaux rares, ils se trouvent dans les socles cristallins. Les socles cristallins, vous les connaissez tous, c'est le Massif central, c'est la Bretagne, c'est un peu la Corse et puis un petit peu aussi dans les Vosges. Donc dans le reste du pays, c'est-à-dire les bassins sédimentaires comme le bassin parisien ou le bassin aquitain, les potentialités de trouver des minerais intéressants sont très 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 réduites. Donc c'est parce que nous avons ces ressources de roches granitiques ou métamorphiques, qu'on appelle le socle, importantes en France, que nous aurions la possibilité, c'est encore inconditionnel, il faut aller voir, il faut regarder quelles sont les richesses. On a des renseignements qui sont à peu près à jour sur les 500 premiers mètres de l'épaisseur de la couche sous nos pieds, mais c'est plus bas qu'il faut aller. Il faudrait aller à 1000 ou 1500 mètres. Donc il faut continuer à faire de la prospection pour voir ce qu'il y a avant de décider si oui ou non on peut se permettre d'essayer de produire en France.
Je complète, mais Guylain sait aussi bien que moi, c'est qu'on a aussi des territoires outre-marins.
Oui.
Donc tout le monde entend parler de la Guyane, on parle de l'or de la Guyane, mais il y a d'autres choses en Guyane, et il n'y a pas que les exploitations à ciel ouvert qui sont possibles, hein, parce que les exploitations à ciel ouvert, vous savez, ça fait des énormes entonnoirs, c'est pareil pour le lignite en Allemagne, hein, c'est pas brillantissime. Hein. Bon. Et puis, c'est trop volcanique, mais je parle des Caraïbes, mais ensuite il y a la Nouvelle-Calédonie, tout le monde connaît le nickel de Calédonie, le cobalt de Nouvelle-Calédonie, qui sont où là, on est vraiment des leaders mondiaux. Et donc, c'est important dans l'avenir de nos relations avec nos frères calédoniens. Ça.
C'est un des enjeux du référendum.
Et enfin, le dernier sujet, c'est que nous avons le deuxième territoire marin mondial. Et que,
en zone économique exclusive.
Voilà, exactement. Vous avez le vocabulaire, c'est parfait. Et donc, il y a des possibilités multiples. On a longtemps parlé des nodules polymétalliques du côté
de la Nouvelle-Calédonie, notamment, non?
Oui, mais il y a aussi du côté de Clipperton, etc. Bon, il y a plein de possibilités. Pour l'instant, les coûts économiques sont très élevés, mais tout ça peut changer. Et donc, nous pensons qu'il ne faut pas perdre la main. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous disons, il faut pas laisser tomber du tout cette partie-là, mais c'est que nos amis allemands qui ont un très petit territoire maritime, dans le dernier rapport qu'ils ont fait, disent bien sûr, nous n'avons pas beaucoup de territoire maritime, mais ce serait de la folie de pas s'y intéresser, parce qu'un jour, ça va devenir crucial. Donc, si ceux qui n'ont pas de territoire maritime disent que ça va devenir crucial, il faudra peut-être que nous, on réfléchisse, même si on est moins riches.
Oui, d'autant qu'on parlait de zone économique exclusive, où là, bon, ben, le terme veut bien dire ce qu'il est, ces territoires sous-marins appartiennent à la France, et elle y fait à peu près ce qu'elle veut en respectant la législation internationale, mais dans les eaux internationales, il est également possible d'exploiter. Mais alors, quelle est la procédure? Il faut se tourner vers des instances internationales, obtenir des autorisations, c'est multilatéral, c'est...
Moi, je ne préfère pas répondre, je sais pas si tu sais, moi je ne sais pas assez bien. On avait un de nous... Bruno Goffet, qui est le spécialiste mondial de ces choses-là, qui nous a bien expliqué. On ne va pas dire des bêtises.
Parce que si j'ai bien lu, il y a un certain nombre de grandes puissances, la Russie, la Chine et d'autres, ont entamé des programmes de prospection au-delà de leur zone économique exclusive, et avec d'énormes moyens.
Je crois qu'on peut demander des autorisations, mais qu'on ne les garde pas éternellement. Donc il faut travailler, il faut faire quelque chose. On ne peut pas bloquer uniquement en posant une demande et en allant dormir.
Oui, le droit de la mer, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est les Nations Unies qui s'occupent de ça et qui peuvent effectivement accorder à certains pays qui le demandent des permis d'exploration du fond de la mer pour savoir ce qu'il y a. Hein. C'est la première chose, évidemment. Et ces permis, comme le dit Bernard, sont accordés pour une durée de 15 ans. Et au bout des 15 ans, si le pays qui avait demandé n'a rien fait ou n'a pas mis en évidence quelque chose, eh ben, c'est fini, le permis tombe.
Et ce n'est que de l'exploration, pas de l'exploitation.
Ce n'est que de l'exploration. Pour l'exploitation, ce sera la même chose que pour l'instant, il n'y a pas encore nulle part sur la planète d'exploitation de ressources minérales sous-marines. Alors ces ressources minérales sous-marines, ça peut être, comme l'a dit Bernard, des nodules polymétalliques qui sont posés, ces espèces de boules de concrétion contenant pas mal de métaux, du nickel, du cuivre, du manganèse, etc. Et puis, il peut y avoir aussi, un peu plus profond, des accumulations de métaux en strates qu'il faudrait exploiter en allant creuser, hein, tandis que les nodules, on les ramasserait. Mais les conséquences environnementales sont extrêmement préoccupantes. Si on aspire ces modules polymétalliques, par exemple, avec des espèces de grands aspirateurs, eh ben, on va répandre de la poussière sur des kilomètres carrés, lesquels vont annihiler, ou en tout cas fortement perturber, toute la vie naturelle, biologique, sur le fond des océans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout clair. Il y a des recherches qui se font actuellement sur la potentialité d'exploiter proprement les fonds sous-marins, mais pour l'instant, il n'en est pas question parce que... c'est trop cher. Hein, oui. Donc, économiquement, c'est trop cher. Il y a un point que j'aimerais bien préciser ici et qui est vraiment fondamental et que nous avons découvert dans le groupe de travail avec un économiste qui s'appelle Pierre-Noël Giraud. Il dit, dans le 21e siècle, il n'y aura jamais, jamais de pénurie de matériaux. La croûte terrestre contient tout et n'importe quoi, tout ce qu'on veut, en quantité extrêmement importante, et dire qu'on n'aura plus de lithium, qu'on n'aura plus de tel métal, de dysprosium ou d'autres choses, c'est une ânerie. Il deviendra de plus en plus difficile à exploiter, il deviendra plus onéreux à exploiter, il pourrait devenir plus polluant à exploiter, mais les ressources de la planète en métaux et en minéraux sont exceptionnellement riches.
Mais je crois que vous faites une distinction entre les ressources et les réserves, qui sont en fait les réserves disponibles. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre.
Tout dépend du coût. Quand les prix augmentent beaucoup, il y a beaucoup de disponibilité qui apparaît. C'est pas.
Oui, si les coûts augmentent, on peut aller chercher des choses qui coûtent plus cher.
Bien sûr.
Voilà. Donc en fait, à mesure que les coûts augmentent, peut-être que la consommation baisse, mais en même temps, elle donne la possibilité d'exploiter plus.
Oui, ou bien on peut changer d'orientation. Tout à l'heure, on parlait des aimants permanents et donc de la nécessité d'avoir des terres rares du dysprosium. Bon, si le dysprosium se mettait à coûter très cher, on peut très bien revenir vers ce qu'on appelle des retours bobinés à la place d'avoir du bobinage de cuivre plutôt que d'avoir des aimants permanents. Et on n'est pas coincé. Or, c'est important parce que les voitures électriques, il est question qu'il y ait des millions de voitures électriques dans un délai assez court.
Ah ben, dans un délai assez court, il est même prévu qu'il n'y ait quasiment plus que ça.
Oui. Donc, on pourra en reparler si vous voulez. S'il faut des aimants permanents pour toutes ces voitures, on a un vrai problème avec le dysprosium. Mais pour l'instant, toutes les voitures électriques fabriquées ont des rotors bobinés, j'emploie le mot exprès, donc n'ont pas besoin d'aimants permanents. Alors, est-ce qu'on va vers l'aimant permanent ou pas? Ça dépendra de la disponibilité en dysprosium, de son coût, et de ce que les industriels, que les chercheurs vont inventer pour optimiser le moteur électrique. Donc on est dans une phase où on s'adapte vraiment, c'est une phase passionnante, on s'adapte vraiment et l'industrie s'adapte. On n'est pas coincé. L'idée qu'on sera coincé est donc... Alors évidemment, il peut y avoir des moments courts où il y a des tensions qui peuvent mener à des rivalités. J'espère jamais à la guerre, mais normalement, la recherche et le marché devraient arranger les choses. Alors, on peut se rappeler qu'après la guerre de 70, tout le monde a dit on a découvert l'électricité, on a découvert les moteurs, maintenant on est devenu intelligent, il n'y aura plus jamais de guerre. Il est sur la suite d'attendre 25 ans. Bon, mais nous, on est optimistes. On a l'impression que le marché seul, nous, en tant que scientifiques, on sait qu'il y a des limites, mais que l'adaptation, grâce à la recherche de l'industrie, ça, on y croit parce que c'est notre métier.
Du coup, d'ailleurs, vous faites des essais de prospective, mais avec forcément des scénarios, puisque ce qui est terrible dans une stratégie qui a vocation à être appliquée, à impliquer des décisions aujourd'hui pour demain, c'est le principe même de ces affaires-là, d'ailleurs, sont quand même sujettes à un grand nombre de points d'interrogation, puisque c'est un mouvement qui se fait où on invente en marchant, si je comprends bien. D'autant qu'il était initié de façon volontariste, on ne va pas s'en plaindre, mais on n'attend pas d'avoir les solutions pour lancer les chantiers.
C'est vrai, et il n'y a aucune raison que le prix du... Pour l'instant, le prix du pétrole est monté à cause de M. Trump. Mais en gros, moins on utilisera le charbon, moins on utilisera le pétrole, plus il sera surabondant, donc moins il sera cher, et plus il faudra de vertu pour ne pas l'utiliser. Et plus les pays seront pauvres, plus ils auront envie de l'utiliser. Et c'est bien normal. Donc on ne va pas vers la rareté et le prix élevé qui justifiera la transition, on va vers le choix délibéré d'une politique de protection de la planète. Il faudra du courage. Hein.
Oui, et peut-être un petit peu plus que du courage, parce que là, ce que vous venez de nous décrire, s'il est normal que d'autres, du coup, utilisent cette énergie moins chère, et c'est bien normal, et on le comprend bien, ça signifie qu'on n'est pas prêt de résoudre le problème écologique global tel qu'on le présentait, et tel qu'il était poursuivi au départ. C'est-à-dire que sans contrainte, je vois pas. Sans normes, je veux dire.
Je voulais parler du courage politique. Je parle pas du courage physique. Mais la question des métaux rares est un des sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets de la transition énergétique, notamment... mais c'est hors sujet. On trouve que dans les catalyseurs, tout ce qui est biogénéré, est-ce que... vous parlez du stockage. Personne parmi nous, scientifiques, pense qu'on saura stocker en grande quantité et durablement de l'électricité avant très longtemps, parce que c'est bien plus facile de stocker de la chaleur ou de stocker du gaz que de stocker de l'électricité. Hein, si vous voulez avoir un café chaud quand vous promenez, il faut mieux emmener un thermos qu'une batterie, un réchaud électrique. Mais il faut mieux avoir une petite bouteille de gaz toute petite et avec un réchaud. Donc, l'idée de base, quand même, c'est de dire, pour stocker l'énergie, ou bien on stockera de la chaleur de plus en plus, alors déjà, vous le stockez dans votre cumulus, hein, ou bien on prendra du méthane, ou on fabriquera de l'hydrogène, et on les stockera dans des réservoirs, mais dans des grands réservoirs souterrains, sur lesquels on travaille beaucoup, qui permettent de faire des stockages de grande taille, en gros, le tiers, le quart de la consommation annuelle d'un pays comme la France ou comme l'Allemagne.
Oui, l'idée, c'est de stocker dans des cavités souterraines.
Ouais. Cavités, mais aussi aquifères, c'est-à-dire des couches poreuses, hein, et le gaz est stocké à l'intérieur des pores, c'est-à-dire entre les grains de sable, hein, et repousse l'eau. On enlève l'eau au milieu du gaz. Donc ce n'est pas des cavités minées que l'on crée. Il suffit d'aller trouver des couches adéquates dans le sous-sol sur lesquelles on peut injecter du gaz. Il y en a dans le bassin de Paris, il y en a dans le bassin aquitain, il y en a dans des cavités, cette fois-ci, creusées dans le sel par dissolution, etc. Il y a beaucoup de techniques. Mais je voudrais ajouter que dans notre rapport, nous avons fait l'effort de passer en revue les différents besoins des technologies actuelles ou connues en matériaux. Et on a des chiffres et même des coûts à l'heure actuelle de la quantité de métal qu'il faudrait, et ce que ça coûterait, pour équiper, par exemple, toutes les voitures en 2040 en voitures électriques, pour produire tant de mégawatts d'énergie photovoltaïque ou d'énergie éolienne. Donc c'est un rapport qui donne des ordres de grandeur et des quantités précises de matériaux et des coûts à la valeur actuelle du matériau dont on aurait besoin.
Oui, certains exemples sont éloquents. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus, je crois que c'est sur le cobalt.
C'est le lithium.
Ou le lithium, où on constate que la production mondiale actuelle ne suffirait pas à permettre l'équipement en voiture électrique
de la France,
telle que prévue lors de la COP21, si je ne me trompe pas.
Du dernier engagement de Nicolas Hulot avant son départ. Mais...
Voilà. Non, mais ça donne la mesure des investissements et du caractère industriel de la chose. La production mondiale actuelle ne suffit pas juste pour la France.
Donc, on se dit, est-ce que c'est impossible ? Nous répondons non. Ça veut dire que le prix du lithium va s'adapter en fonction des recherches minières. On a parlé des différentes sources de lithium. En France, nous avons un potentiel de lithium. Ce sont les eaux des Vosges. C'est quand on fait de la géothermie, on remonte de la chaleur. Il se trouve que dans cette eau chaude, il y a du lithium. Et ce n'est pas du tout des quantités négligeables. Donc on a lancé des recherches très récentes sur l'exploitation du lithium des ressources de Soultz dans les Vosges. Et ça paraît pas du tout idiot. Alors ensuite, il faut que les aspects réglementaires, etc., soient ouverts, de façon à ce qu'il n'y ait pas tout de suite un blocage.
Mais ce que j'allais dire, à chaque fois qu'on nomme une zone, il y a des ZAD qui se préparent. Hein. C'est-à-dire qu'en Bretagne, ils sont déjà en train de fourbir leurs armes, peut-être dans le Massif central, maintenant on vient de citer les Vosges. Ça fait partie des paramètres, finalement, au-delà du marché, des tensions entre États, de la pénurie.
Oui,
il y a l'acceptabilité. Il y a un moment, d'ailleurs, vous dites qu'il est temps de créer un récit de la transition énergétique.
Oui.
C'est vrai que ce récit manque.
Et hier, donc, à l'Élysée, on l'a rappelé. C'est-à-dire que pour l'instant, le récit collectif, la narration, comme on dit souvent, est plutôt lié au fait que, après la transition, ce que disait Guilin tout à l'heure, tout sera euphorique, tout sera bisounours.
C'est pastoral.
Et c'est pas la réalité. Et il faut bien arriver à accepter l'idée qu'on continuera à solliciter la planète qui en a parfaitement les ressources. Donc il n'y a aucune raison de dire que la planète souffre quand on lui prend son cobalt ou son lithium. La planète n'est pas anthropiquement semblable à nous. Ça fait des milliards d'années qu'elle vit très bien. Donc il faut avoir cette idée-là. Alors dans le cas de Soultz, l'avantage c'est que ce qu'on appelle les doublets, c'est-à-dire que...
Vous parlez du gisement alsacien ou vosgien, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui. Ces gisements sont déjà exploités. Donc il faut simplement récolter l'eau et traiter l'eau qui sort avant de la réinjecter. Donc c'est quelque chose qui est pratiquement dans l'air du temps et relativement bien adapté à ce que pensent les gens. Les gens des Vosges sont fiers de leurs ressources. Si on leur dit en plus on va avoir du lithium, on a l'impression qu'on aura un espèce d'accord, puisque ça fait partie de leur récit collectif territorial. Il faut arriver à ce que ce récit collectif territorial progresse de façon à ce que tout le monde soit fier de se dire « je participe, pas uniquement en mettant des panneaux photovoltaïques chinois sur mon toit, mais en anticipant les vrais besoins. »
Oui, il ne suffira pas de prendre des douches plus courtes.
Mais la douche, je dirais que c'est de bête, la douche plus courte... Je ne parle pas de l'eau. Si votre eau chaude, elle est faite avec du soleil, il n'y a pas de raison de se priver. Quand on fait sécher de l'air pour faire du foin, on dit bah, « Non, il faut la faire moins sécher, etc. » C'est gratuit, le soleil. Donc, l'économie n'est intéressante que si la production émet des gaz à effet de serre. Si la production, elle est quasiment gratuite, il ne faut pas se gêner. Pourquoi se faire du mal quand on peut se faire du bien ?
Sur ce, quels devraient être, selon vous, parce que bon, des récits locaux s'adapter aux psychologies locales, certes, quand on veut installer une infrastructure, là je vois que vous étiez dans ce moment, on voit, parce que vous venez de dire que vous étiez dans ce métier, on analyse comment une population déterminée d'un territoire spécifique peut accepter telle ou telle infrastructure.
D'y trouver son compte.
Voilà, d'y trouver son compte, on crée un jeu d'acteurs et ça peut bien se passer. Mais est-ce que le récit à construire n'est pas plus vaste encore ? Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de ce discours angélique et donner désormais à l'ensemble de la population, des décideurs, mais aussi de la population, leur mettre sur la table l'ensemble des enjeux et des efforts qui devront être accomplis ? Est-ce que finalement, votre rapport, j'en viens là, ne devrait pas, au-delà des seuls décideurs et de ses destinataires initiaux, c'est-à-dire les décideurs gouvernementaux et politiques, jouir d'une plus large diffusion de façon à ce que chacun plonge dans ce nouveau monde et ses défis ?
Oui, d'abord le rapport est disponible, il est public, il est disponible sur Internet au site de l'Académie des sciences ou au site de l'Académie des technologies, vous pouvez
le télécharger
et le regarder, il est absolument visible. Ce que je voudrais dire, c'est deux choses. Sur la réinjection des eaux dans les aquifères, dont tu as parlé très bien, et je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit, c'est le Service géologique national, c'est-à-dire le Bureau de recherche géologique et minière, qui a développé le doublé géothermique de Soultz-sous-Forêt, dans lequel on pourrait ajouter une extraction de lithium des eaux qui montent et qui redescendent dans la Saône. Il y a quand même des préalables qui ont posé beaucoup de problèmes. C'est en Alsace, l'exploitation des mines de potasse d'Alsace, les MDPA. Les MDPA, on extrayait des couches de sel qui contenaient un peu de potasse et beaucoup de chlorure de sodium. Chlorure de sodium, on n'en fait rien, c'est du sel de cuisine, on n'a pas grand-chose à faire du point de vue industriel. Donc, les exploitants des MDPA avaient dit, eh ben, on va le réinjecter dans une nappe, la nappe du Trias, dans laquelle il ne fera de mal à personne et il sera à l'abri, etc. Les gens sont montés au créneau, ils n'ont pas fait des aides parce que ça ne se faisait pas à l'époque, mais ils se sont opposés de la façon la plus déterminée à la réinjection de sel. C'est quand même pas un matériau dangereux, on en mange tous les jours. Hein. Bon, ils ne voulaient pas qu'on réinjecte du sel dans le sous-sol alsacien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a réinjecté le sel dans le Rhin, et c'est les Hollandais qui boivent l'eau du Rhin qui ont bu de l'eau salée à cause de nous.
Donc salé quand même.
Pas très salé, un peu salé. Non, si vous voulez, ce problème d'acceptabilité sociale est effectivement un problème important, mais il faut le regarder sous un angle moral. Si on le fait pas chez nous, on le fait chez qui? On aura besoin de lithium, on aura besoin de disporteurs, on aura besoin de ces matériaux, et qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a un dernier point que je voudrais introduire, c'est que dans une négociation commerciale, si vous allez voir les Chinois, ils vous disent, écoutez, mettons-nous d'accord sur un prix du lithium, du dysprosium ou du cobalt. Ben, s'ils sont le monopole de la production, ils fixent leur prix comme ils le veulent. À partir du moment où vous leur dites, écoutez, du cobalt, j'en ai chez moi. Si je l'exploite, il me reviendra à tel prix. Donc, si vous me vendez votre cobalt plus cher que ce prix-là, j'achète pas et je développe mes mines. Vous avez un moyen d'argumenter. Donc, même si vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir de mines in fine, vous pouvez très bien faire état de la présence de ressources dans votre sous-sol pour aborder une discussion commerciale avec un producteur en lui disant « ne faites pas n'importe quoi, nous sommes capables d'exploiter ». Donc il faut se garder ce problème. Et là, si vous voulez, c'est je dirais indispensable que la France investisse un peu d'argent pour aller voir ce qu'on a, ne serait-ce que pour voir tenir ce langage. Qu'est-ce qu'on a chez nous? Il faut qu'on le sache.
Mais c'est l'une de vos recommandations.
C'est une de nos recommandations.
D'ailleurs, peut-être peut-on conclure par ces recommandations, si vous pouvez nous en faire un résumé synthétique. Elles sont déjà synthétiques en elles-mêmes, enfin nous les présenter. Et aussi, nous ne sommes pas en recherche de scoop à Canal Academy, mais nous dire d'ores et déjà la façon dont elles ont été reçues.
On les a commentées hier à l'Élysée. Donc c'est la seule chose qu'on a commentée verbalement. D'abord, anticiper les tensions éventuelles. Il faut essayer, ce que nous avons fait, d'imaginer dans tous les différents secteurs quelles seront les demandes, là où il y aura des tensions et là où en fait... Alors, quand la demande nationale est minime par rapport à la demande mondiale, on ne pèse rien, on va sur le marché et on essaie d'anticiper le marché. Ça, c'est du travail de marché. Quand on devient significatif, d'où notre exemple du lithium, à ce moment-là, il faut anticiper, voire faire évoluer les technologies. Le CNRS peut très bien travailler sur des technologies sans tel ou tel matériau, hein. Notamment...
Je t'interromps, on a parlé du lithium pour les batteries, on peut développer des batteries au sodium.
Bien sûr.
Donc, elles ne sont pas aussi efficaces, elles sont...
Ou avec moins de lithium.
Donc on peut très bien jouer sur les technologies.
Des technologies alternatives.
Oui. Donc ça, les tensions éventuelles, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un sujet... C'est la stratégie nationale qu'on doit mener pour la France et qu'on doit mener pour l'Europe, parce que, malgré tout, en principe, on a une stratégie européenne, même si elle n'est pas limpide. Bon. Connaître les ressources de la France, c'est ce que faisait Andy Guilin. Nous avons des ressources plutôt exceptionnelles pour l'ensemble de l'Europe, dans l'Hexagone et dans le monde. On doit les connaître et on doit les dire. On doit les dire à nos concitoyens. Ça doit faire partie de notre patrimoine. Et ce n'est pas quelque chose dont on doit s'excuser.
Hein? Je pense que ce n'est pas le moment, effectivement.
Et donc, oui, mais si vous voulez, en France, parce qu'on a eu l'hydraulique, parce qu'on a eu le nucléaire, on a tendance à penser que la mine, c'est un truc du passé. Et en fait, non, ça va redevenir quelque chose du futur. Ensuite, soutenir la transition énergétique par des technologies appropriées. Ce qu'on disait, on est dans une période où on a une énorme adaptation technologique. Tous les industriels s'arrachent les cheveux pour savoir où aller. Vous pensez bien que non seulement Peugeot et Renault, mais tous leurs sous-traitants de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang, se disent quel est mon business de demain. Et évidemment, ils vont regarder ce que fait le CNRS, le CEA, etc. Les piles à combustible, tout ça, c'est vraiment très très mobile. Ensuite, tirer l'avantage industriel de l'engagement dans la transition énergétique. Alors, on n'est pas chez les bisounours. Les Chinois ne pensent qu'à gagner des avantages compétitifs. Nos amis allemands, qui sont des grands industriels, plus exportateurs que nous, ne pensent qu'à ça. On doit être... comment est-ce qu'on dit ? Égoïste, c'est peut-être trop fort. Un peu égocentrique de temps en temps, pour avoir une industrie du futur. On ne veut pas réindustrialiser la France, on veut que l'industrie du futur soit chez nous.
Oui, il faut avoir un peu le goût de la compétition.
On doit créer des avantages compétitifs. On peut dépenser un peu d'argent pour faire des investissements en France, pour créer l'avantage compétitif.
Oui, et du reste, si on donne naissance à une industrie sur ce secteur, tout le monde en bénéficiera. L'inventivité en la matière, c'est certes de l'esprit de compétition, parce que c'est plus chouette si c'est nous qui l'avons, mais c'est une bonne nouvelle globale aussi, non ? J'ai lu ça dans votre rapport, c'est-à-dire que c'est celui qui peut ramasser la mise, c'est aussi celui qui trouve de nouveaux moyens d'extraction qui sont justement propres, acceptables.
On ne peut pas rester dans les plus grands pays du monde en inventant que des modes de dépense et pas des modes de production. Donc si on n'arrive pas à produire et à exporter, on ne sera plus dans les grands pays du monde. Et à la fin, bon, on sera des Indiens qui inviteront les Chinois et les Russes pour les vacances. Bon, non, n'exagérons pas. Alors, ensuite, dernier point, adapter le cadre législatif et réglementaire. Pour l'instant, comme on l'a dit, à la fois dans la perception, mais aussi dans le cadre législatif, on a un code minier qui n'est plus adapté, on a des règlements qui ne sont pas adaptés. Pour ouvrir des stockages souterrains, ça n'est pas clair du tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture globale à dire notre sous-sol est une richesse nécessaire à la transition énergétique. Et c'est pour ça qu'on termine ce qu'on disait tout à l'heure. On a besoin d'un récit collectif qui doit être politique, qui doit être à très haut niveau. Alors le courage de dire la transition énergétique, c'est quelque chose qui va solliciter le sous-sol et notre planète ne sera pas contre parce qu'on va le faire proprement.
Très bien, écoutez, c'est une excellente conclusion et qui annonce tout à fait ce que je voulais, ce par quoi je voulais moi-même conclure, mais je ne sais pas si monsieur de Marcy, vous voulez ajouter quelque chose
auparavant. Je crois que Bernard Tardieu a bien résumé la position que nous avons prise dans ce rapport. Merci Bernard
d'avoir été aussi clair. Le rapport est commun, la conclusion l'est également, et moi je rajoute simplement que effectivement, dans un pays comme le nôtre, qui est une démocratie, les choses ne se feront pas sans une mobilisation et une prise de conscience collective, qu'elle dépend donc de chacun d'entre nous, et donc j'invite nos auditeurs à télécharger cet ouvrage comme ça leur a été suggéré sur les sites de l'Académie des sciences et de l'Académie ou de l'Académie des technologies ou à se le procurer en version papier, mais enfin après tout télécharger c'est très bien aussi, non seulement à le lire mais à le diffuser et en tirer, qui sait, aussi une stratégie personnelle, car cette stratégie collective d'utilisation des ressources peut aussi être utilisé pour guider sa propre vie, par exemple choisir les études de ses enfants dans des secteurs qui peuvent être porteurs, puisque je crois que les études scientifiques et les emplois industriels n'attirent pas autant qu'ils le devraient, alors que là, il y a aussi de beaux gisements, pour rester dans un vocabulaire minier. Merci, messieurs.
Merci.
Merci bien.